peut commencer. Professeur Supio m'a dit qu'il y aura quelques minutes en retard, mais de commencer. Oh, voilà, il est ici. Juste à temps, oui.
Bonsoir.
Bonsoir à tous, on commence. Oui. Alors, ce soir, je discute le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans l'élaboration de la politique internationale relative aux entreprises en difficulté financière. La majorité des grandes entreprises aujourd'hui sont internationales, mais la législation concernant les sociétés et l'insolvabilité est établie au niveau national. Lorsqu'une entreprise est viable, il peut remplir ses obligations envers ses créanciers, actionnaires et autres parties prenantes, de telle manière qu'en général, le caractère national de droit des sociétés ne pose pas de problème. Cependant, lorsqu'une partie ou un ensemble des entités d'un groupe d'entreprises commerciales deviennent insolvables, le droit national ne suffit pas à protéger les créanciers et notamment les salariés et retraités au-delà des frontières de leur pays. En effet, sur le plan mondial, les pays ont des approches extrêmement divergentes à l'égard de la législation en matière de l'insolvabilité. Certains pays préfèrent proposer des plans de redressement ou des plans de restructuration donnant aux entreprises insolvables toutes les possibilités de se restructurer afin de préserver l'emploi, l'activité économique et de maximiser la valeur active de la société. D'autres pays sont plus inclins à l'acquisition, vendre les actifs pour que les créanciers puissent récupérer leur argent au plus vite. Où ces deux approches peuvent être convergées avec un peu de liquidation et un peu de restructuration. Quand une entreprise mène ses activités dans plusieurs pays ayant des approches différentes, de graves conflits peuvent survenir entre les parties prenantes et on assiste parfois à une course aux actifs qui fait que les plus vulnérables, comme les travailleurs et les petits fournisseurs, sont sérieusement lésés. Si une entreprise insolvable est mise en liquidation prématurément, c'est-à-dire ses actifs sont vendus de façon fragmentaire, les créanciers risquent de récupérer un montant inférieur à celui qu'ils réclament. Si une très grosse entreprise fait défaut, cela peut parfois entraîner toute une série de faillites en cascade, car les petits fournisseurs et les créanciers non garantis s'effondrent financièrement en même temps que la multinationale. La raison pour laquelle l'insolvabilité des groupes multinationaux doit être abordée à l'échelle mondiale est qu'il faut préserver, dans la mesure du possible, la valeur d'exploitation des entreprises en les aidant à se restructurer afin de protéger l'activité économique et les emplois. Une approche coordonnée permettrait de traiter l'ensemble des parties prenantes de façon plus juste et plus équitable. En collaboration avec ses États membres, l'Organisation des Nations Unies lance un projet visant à élaborer des dispositions type sur le traitement de groupes d'entreprises en cas d'insolvabilité. Le débat est complexe en raison d'une part des différentes priorités nationales qui privilégient la restructuration ou la liquidation et d'autre part de la diversité de protection offerte par ces pays aux créanciers et autres parties prenantes. Par exemple, les employés en France ont une plus grande priorité comme créanciers que par exemple au Canada ou aux États-Unis. Dans la conférence aujourd'hui, je vais me pencher sur les obstacles auxquels l'ONU est confrontée dans ses efforts pour élaborer une approche permettant de traiter le cas d'insolvabilité des groupes d'entreprises multinationales. Je commencerai par aborder brièvement la manière dont l'ONU a concentré ses efforts pour concevoir des règlements mondiaux. J'évoquerai ensuite un exemple actuel, l'effondrement de Nortel Networks, pour illustrer les avantages et les difficultés. Enfin, j'avancerai quelques principes qui devraient dorénavant être pris en considération. Alors, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, en anglais on dit UNCTRAL, a été créée par l'ONU pour permettre aux États membres d'élaborer des règlements modernes, justes et harmonisés sur les transactions commerciales en recourant à divers outils, tels que les conventions, des législations, types et des guides législatifs. UNCTRAL est constitué de 6 groupes de travail qui réalisent d'importants travaux préparatoires sur différents thèmes, tels que le commerce électronique et le droit des sûretés. Chaque État membre de la Commission est représenté dans le groupe de travail qui est chargé des questions en rapport avec la législation concernant l'insolvabilité. C'est le groupe de travail 5 qui est chargé des questions en rapport de l'insolvabilité. Au fil du temps, par un vaste processus de recherche de consensus, ce groupe a produit plusieurs documents clés, en particulier la loi type, on dit en anglais Model Law, sur l'insolvabilité internationale, le guide pour l'incorporation et l'interprétation en 2013 et le guide législatif sur le droit de l'insolvabilité. L'ensemble de ces documents a pour but d'aider les pays à l'échelle mondiale à élaborer les normes relatives à leur législation nationale en matière d'insolvabilité. Plus récemment, les efforts du groupe 5 se sont concentrés sur la manière d'aborder le cas d'insolvabilité internationale concernant les groupes d'entreprises multinationaux. Un problème important, mais extrêmement complexe. UNCTRAL s'efforce d'aboutir à une prise de décision participative en utilisant des sources multiples pour élaborer des principes ou définir les meilleures pratiques. Les délégations officielles des États sont nommées par leurs pays respectifs. Ainsi, les délégations de 41 États membres, ainsi que la Commission européenne, la Banque mondiale et la Conférence de la Haye du droit international privé ont pris part à la réunion la plus récente en 2015. De même, des organisations non gouvernementales telles que l'American Bar Association et l'International Insolvency Institute, qui sont fondamentalement des associations professionnelles d'avocats et des administrateurs judiciaires, participent régulièrement. Le groupe de travail se réunit pendant une semaine entière, 2 fois par an, en alternant entre Vienne et New York. Et à cette occasion, des services d'interprétation simultanés sont offerts dans au minimum de 6 langues. Le processus donne à tous les participants la possibilité d'exprimer leur opinion, mais l'établissement d'un consensus est très lent en raison de la diversité des priorités sociales et politiques de chacun. Une fois qu'un consensus a été atteint par le groupe de travail sur la formulation de documents particuliers, Ceux-ci sont approuvés par la Commission, dont la décision est finalement ratifiée par l'Assemblée générale de l'ONU. Le travail du groupe illustre bien les conflits qui peuvent survenir entre entreprises, expertise technique, débat participatif général et prix de décision. Les nations développées, par exemple, qui sont souvent déjà familiarisées avec les législations relatives à l'insolvabilité, font clairement entendre leur point de vue, ce qui soulève des inquiétudes au sein des pays émergents qui craignent que les mécanismes proposés ne soient pas adaptés à leur structure économique. Il y a également des conflits entre juridictions de droit civil et juridictions de droit commun quant au niveau de codification nécessaire. Une grande partie du processus de délibération se déroule au cours de discussions en petit comité, hors du cadre officiel, lors des pauses durant lesquelles les délégués peuvent aborder les questions de manière plus informelle pour essayer de trouver un accord. Les délégations des ONG ont des intérêts particuliers, car ce sont elles qui, en tant que des organismes professionnels, sont chargées de mettre en œuvre les initiatives proposées. Mais si leurs expériences et expertises sont appréciées, les créanciers pour lesquels elles travaillent habituellement et par conséquent, les connaissances sur lesquelles ils fondent leur opinion ne représentent qu'une petite partie des divers créanciers victimes des affaires d'insolvabilité. Le processus d'élaboration du guide législatif d'une structure, par exemple, a été analysé par les professeurs Susan Block-Leave et Terence Halliday. Sur les 43 États et groupes privés ayant participé au débat entre 2001 et 2004, 25% des interventions avaient été faites par les quatre organismes professionnels. Alors, leur participation était donc largement disproportionnée par rapport à leur nombre. Le groupe 5 a cependant remporté des succès notoires dans la recherche de consensus. La loi type, le Model Law, est conçue pour aider les États à doter leur législation d'une structure légale moderne, leur permettant de gérer plus efficacement les procédures d'insolvabilité internationale. Elle a pour but d'autoriser et d'encourager la coopération et la coordination entre pays plutôt que de tenter d'uniformiser les règles juridiques se fondant sur l'insolvabilité. L'objectif est de promouvoir la coopération entre les tribunaux des différentes juridictions dans les affaires d'insolvabilité internationale, d'améliorer le niveau de sécurité juridique pour les commerçants et les investisseurs, de veiller à ce que les affaires d'insolvabilité internationale soient traitées de façon juste et efficace afin de protéger les intérêts des créanciers et autres personnes concernées, de garantir la protection et la maximisation de la valeur des actifs de la société débiteuse et de sauver les entreprises en difficulté financière afin de protéger l'investissement et de préserver les emplois. La courtoisie et la coopération, en anglais on dit comedy and cooperation, internationale, ne signifie pas qu'un tribunal doive renoncer à son autorité et champ de compétences au détriment de ses propres procédures ou de l'application de ses propres règles juridiques du fond. Il est néanmoins intéressant de noter que la loi type n'a été adoptée que par 40 juridictions, en comparaison à la loi type d'une structure sur l'arbitrage commercial international, qui est maintenant en vigueur dans environ un tiers des pays du monde. La lenteur de cette adoption en Europe est due en partie au règlement sur les procédures d'insolvabilité à l'UE, qui établit son propre cadre pour le traitement des affaires d'insolvabilité internationale au sein des États membres européens, même s'il faut reconnaître que les lois types, UNCITRAL et les guides ont servi de base à la récente refonte de ce règlement. Même si, d'une manière générale, le processus mené par le groupe de travail de l'UNCITRAL a un certain mérite, dans la mesure où il a permis d'atteindre un vaste consensus sur des principes internationaux, force est de constater que la légitimité de cette approche de la législation internationale est critiquée. Bloch Libe et Halliday font observer que lorsqu'on légifère à l'échelle mondiale, le paradoxe est que dans la mesure où les organisations internationales sont perçues comme légitimes, elles sont susceptibles d'être plus puissantes et donc plus efficaces. Mais l'exigence d'arriver à un consensus fait que cette efficacité est corrompue par ce même processus de légitimation. Néanmoins, les processus menés par l'UNCITRAL ont au moins l'avantage d'impliquer la participation des États membres de l'ONU, ce qui, à cet égard, le différencie des nombreux efforts supranationaux faits à l'heure actuelle pour établir des normes et qui sont dominés par de gros intérêts financiers privés essayant d'imposer des normes mondiales à des nations souveraines. Les efforts actuels pour résoudre la question de l'insolvabilité internationale des groupes d'entreprises commerciales ont essayé d'autres critiques. En l'occurrence, il y a un conflit entre la capacité d'un État national à gérer sur son propre territoire une affaire d'insolvabilité concernant une entité appartenant à un groupe d'entreprises et la question de savoir si la valeur des actifs peut être davantage maximisée ou si des procédures plus efficaces peuvent être utilisées dans le cadre de procédures mondiales ou concernant le groupe dans son ensemble. De plus, il existe des doutes quant à la manière d'identifier le centre principal d'intérêt d'un groupe d'entreprises. En anglais, on dit COMI, Center of Main Interest. Afin de savoir dans quel pays il convient d'engager une procédure. La possibilité d'une course à la procédure dans un pays donné pour l'ensemble du groupe commercial qui empêcherait les créanciers de nombreux pays d'avoir recours à un procès pour l'insolvabilité dans leur propre juridiction est particulièrement controversée. En mai 2015, la délégation française, par exemple, auprès du groupe de travail 5, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que l'avant-projet sur l'insolvabilité internationale des groupes d'entreprises se concentre sur une solution coordonnée, élaborée pour l'ensemble du groupe, une recette contre l'insolvabilité des corporations, qui, à son avis, contribuerait à freiner l'ouverture de procédures concernant les différentes entités du groupe. La délégation craignait que la prise en compte du centre de principaux intérêts d'un groupe dans l'élaboration d'une solution à la solvabilité risque de créer un climat d'imprévisibilité et d'inciter à la recherche du tribunal le plus favorable. Cela permettrait à l'entité d'un groupe d'entreprises qui serait la première à ouvrir une procédure de garantie que ses propres intérêts l'emportent sur ceux des autres sociétés appartenant au même groupe. La France estime, la délégation française estime que l'accent devrait être mise sur la facilitation des procédures d'insolvabilité internationale affectant des groupes d'entreprises multinationales par une coordination et coopération procédurale entre tribunaux et représentants de l'insolvabilité. Le document souligne que certains pays du droit civil craignent qu'adopter une solution globale encourage les parties à agir de telle sorte que la protection des créanciers à l'échelle nationale soit compromise. En particulier, on dit forum shopping et beaucoup des dossiers en France vont à cette époque en Angleterre et pas en France. Alors, pour exemple, des difficultés mises en évidence par l'insolvabilité de Nortel. La récente faillite de Nortel Networks est sans aucun doute la plus grosse affaire d'insolvabilité internationale de tous les temps concernant un groupe d'entreprises commerciales. Le siège social de Nortel était au Canada, mais le groupe déployait ses activités à travers de 140 sociétés dans 60 pays différents, notamment aux États-Unis, en Europe, ainsi que la France, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. En dépit de ces 140 sociétés opérant dans de nombreux cadres législatifs nationaux différents, le fonctionnement de Nortel était intérieurement intégré, avec des activités interdépendantes, des garanties intergroupes pour son endettement principal, un système de flux de trésorerie consolidée et une information financière consolidée. Les brevets qui représentaient la propriété intellectuelle de Nortel et son actif le plus précieux étaient développés dans le monde entier, mais c'est le patronage, l'ownership, c'est au Canada seulement. Lorsque le groupe était en bonne santé financière, un tel degré d'intégration ne posait pas de problème, car dans chaque pays, les sociétés avaient les moyens de payer leurs créanciers. Cependant, en janvier 2009, la détérioration des conditions du marché et la diminution des engagements des clients amenèrent Nortel a ouvert une procédure judiciaire d'insolvabilité au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. En Angleterre, 19 sociétés constituées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les débiteurs de la région EMEA, furent placés sous administration judiciaire en vertu de l'insolvabilité, le droit d'insolvabilité de l'Angleterre. À l'inception de la filiale française, l'exception de la filiale française, Nortel Networks SA. Le jour suivant, un liquidateur fut nommé en France en vertu de l'article 27 du règlement européen sur les procédures d'insolvabilité pour se charger de la filiale française. L'objectif initial visé par toutes ces procédures était d'essayer de restructurer le groupe à l'échelle mondiale. Mais il est rapidement apparu qu'il ne serait pas possible de relancer une activité viable et que les actifs devraient être liquidés. C'est ici qu'apparaît l'aspect positif des efforts de Nortel. En effet, en dépit de la multitude des procédures, tous les parties eurent recours au mécanisme de Nortel pour se mettre d'abord sur un protocole et un processus de vente mondiaux afin que la valeur des actifs ne soit pas perdue. Les ventes des différents secteurs d'activité et de portefeuille de brevets résiduels rapporta 7,3 milliards de dollars américains de recettes, dont 4,5 milliards provenant du consortium Rockstar formé par Apple Microsoft et d'autres multinationales. Le produit de cette vente fut placé sous scellé en attendant qu'il soit décidé de quelle façon il serait reparti entre des centaines de milliers de créanciers. Le processus de vente fut été particulièrement réussi dans la mesure où le niveau de coopération mondiale entre pays permit de maximiser la valeur des actifs pour le bénéfice des créanciers. Cependant, les parties ne s'étaient pas entendues d'avance sur la manière de répartir les recettes. Elles étaient seulement convenues d'intervenir à titre de médiateur en cas de litige ou de demander l'aide des tribunaux. Ça, c'est un des plus grands problèmes. Une fois la vente terminée, les porteurs d'obligations, c'est-à-dire les créanciers les plus puissants, n'avaient plus aucune raison pour régler l'affaire dans les meilleurs délais. Des litiges très acharnés et cotus s'ensuivent. Après 6 ans de procédure, plus d'une centaine de décisions de justice ont été rendues. Cette procédure illustre le meilleur et le pire des processus d'insolvabilité internationale. Alors, il y a des aspects positifs. Un protocole approuvé au début de la procédure d'un hôtel sur ordre des tribunaux canadiens et américains avait pour but d'assurer l'administration ordonnée et efficace des procédures. Tous les parties ayant accepté de coordonner leur approche à réduire les coûts et éviter la duplication des efforts. Alors, en place d'avoir plus d'un centre de procédure dans 60 pays, il y avait seulement 3 procédures. Ce protocole insistait sur la nécessité de préserver l'indépendance et l'intégrité des tribunaux et d'encourager la coopération internationale et le respect de la courtoisie pour le bénéfice des créanciers et de toutes les sociétés débitrices et autres parties concernées. La procédure de répartition de la valeur des actifs fut exceptionnelle, prenant la forme d'un procès conjoint entre tribunaux canadiens et américains tenu par vidéoconférence. Il y avait des témoins dans les 2 salles d'audience aux États-Unis et au Canada, et les avocats présentèrent leurs arguments devant les 2 tribunaux. Chaque journée, ça continue pour quelques mois, et chaque journée, il y a plus de 400 retraités qui ont assisté régulièrement aux audiences. Le parti avait accepté d'un commun accord à l'inclusion des audiences, les 2 juges rendre leur jugement en même temps et que les 2 juges pourraient communiquer entre eux sans qu'il y ait des avocats présents, surtout questions procédurales ou administratives, afin de déterminer s'ils pouvaient rendre des décisions concordantes. Cette idée que 2 juges de différents pays pourraient se parler à propos d'une affaire sans que les parties sont présentes était très nouveau. En mai 2015, les 2 tribunaux rendirent par conséquent leur jugement en même temps. Bien que partant de raisonnements différents, ils arrivaient à la même conclusion. Les 2 juges estimèrent que les 7,3 milliards de dollars devraient être répartis de manière partagée entre le groupe et ses filiales pour payer les créanciers. L'idée d'une répartition basée sur les droits de propriété fut rejetée, car ils estimèrent que les sociétés canadiennes et américaines s'enrichiraient injustement si on leur permettait de conserver pratiquement l'intégralité des recettes générées par la vente des actifs. bien que les tribunaux canadiens et américains n'aient eu aucune obligation dans ce sens, le fait qu'ils soient arrivés à la même conclusion est extrêmement important dans la mesure où, s'il y avait une divergence d'opinion, aucun des deux pays ne déposait des mécanismes pour leur permettant de résoudre les conflits de façon coopérative au niveau de la Cour d'appel. Les tribunaux ont rejeté une approche basée sur le... Les tribunaux canadiens ont soutenu que, compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant la faillite de Nortel, il était nécessaire de faire ce qui était juste, tout en soulignant qu'au Canada, la législation en matière d'insolvabilité accorde aux tribunaux des vastes pouvoirs pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt de toutes les parties. Le fait que les deux tribunaux prient en considération la justice et l'équité dans la résolution des problèmes constitue un principe législatif important, car l'insolvabilité, de par sa nature même, signifie que les ventes des actifs ne suffira pas à rembourser l'intégralité de la dette envers les créanciers. Alors, les deux tribunaux ont fait une distinction entre répartition et distribution. Les tribunaux ont jugé que le fonds ne appartenait à aucun portefeuille particulier et que chaque entité en faillite restait distincte, avec ses propres créditeurs et son propre argent liquide en casse, et que son cas devait être administré séparément. Alors, les versements doivent maintenant être effectués en deux étapes. Premièrement, les fonds sur CL seront utilisés pour que, dans les différents pays, chaque entité débitrice reçoive le pourcentage correspondant à toutes les demandes de remboursement acceptées la concernant, proportionnellement au montant de l'ensemble des demandes déposées contre l'ensemble des entités débitrices. Et deuxième, chaque entité de Nortel devra, sous la supervision du tribunal local dans le pays spécifique, gérer les demandes de tous ses créditeurs conformément à la loi en vigueur. Mais il y a aussi beaucoup d'aspects problématiques. Dans l'ensemble, la coopération sur le plan procédural a bien fonctionné, tout comme le prévoyait la loi type d'une CETEL, mais non dans certains bémols. En premier lieu, le tribunal canadien a jugé que l'ouverture d'une procédure au Royaume-Uni pour statuer sur une demande de pension déposée en vertu de la législation britannique sur la retraite contre les entités situées au Canada, constituait une infraction à la suspension, c'est un mandatory stay, de la procédure décidée en vertu de la loi canadienne. Passant outre cette ordonnance du tribunal, les autorités régissant les régimes de retraite britanniques ont continué à faire des démarches pour déterminer si la responsabilité des sociétés canadiennes pouvait être engagée. Deuxièmement, le coût de ces procédures a atteint un montant scandaleux, en partie parce que les frais juridiques d'influents groupes de créanciers américains, les porteurs d'obligations, les bondholders, étaient payés en utilisant les actifs de la faillite, ce qui faisait que les intéressés n'étaient pas motivés pour trouver un accord et pouvaient laisser d'envoyer les coûts de litige. Le juge du tribunal canadien souligne que le succès initial de Nortel a maximisé la valeur de ses actifs mondiaux grâce à la coopération, s'est désintégré à la suite de procès antagoniques et territoriaux, souvent qualifiés de litiges de la terre brûlée, scorched earth litigation, qui ont érodé cette valeur. les coûts ont largement dépassé $1 million pour le litige. Sur les 7,3 milliards de dollars destinés aux employés, retraités, petits fournisseurs et porteurs d'obligations, déjà 1 milliard a été dépensé en horaires des avocats et autres professionnels, un montant scandaleux, comme j'ai dit, à n'importe quel an. Troisièmement, le nombre de retraités victimes de l'insolvabilité de Nortel représente plusieurs millions de personnes, dont plus de 20 000 au Canada seulement, que le caste retraite du groupe n'était pas géré en tant que fonds distincts. Les tribunaux ont indiqué qu'en raison de la difficulté de leur situation, des acomptes devraient être distribués à ces personnes et le juge canadien souligne que ceci est particulièrement important pour les retraités qui sont surtout des personnes âgées et les employés handicapés qui se sont retrouvés en difficulté après avoir perdu leurs avantages sociaux, mais également pour les autres créanciers qui, depuis plus de 5 ans, attendent un compte sur leur demande de remboursement. Des comptes devraient être distribués si cela est possible. Cependant, la pression exercée par les tribunaux n'ordonne pas aux parties de retrouver un accord sur ce versement d'acompte. Et à ce jour, le problème n'est toujours pas résolu, alors même que les retraités sont en train de mourir. Quatrièmement, les procédures ont soulevé des questions liées au rôle joué par les professionnels de l'insolvabilité qui, dans de nombreuses juridictions, interviennent en tant qu'auxiliaires de justice impartielle. On dit en anglais Impartial Court-Appointed Officer, dont l'expertise technique et financière est utilisée par les tribunaux. Chez Nortel, tous les administrateurs ont donné leur démission en 2012 par crainte de voir leurs responsabilités personnelles engagées. Ce faisant, ils ont laissé un professionnel d'insolvabilité, appelé Contrôleur du Canada, remplacer le conseil d'administration durant ces 3 dernières années. Ce changement dans le rôle des professionnels de l'insolvabilité pose la question de savoir comment le contrôleur peut à la fois assumer les rôles d'auxiliaire de justice indépendant et impartial et de défenseur de l'entreprise en cause. Un tribunal ne prend pas en considération ce type de conflit d'intérêts. Sur le plan procédural, la coopération entre les entités de Nortel implantées au RU et dans la région EMEA s'est aussi avérée intéressante à un égard. C'est dans ce cadre d'une procédure séparée, initialement ouverte en France, avait été reportée ou suspendue. L'idée d'une procédure de synthèse, Synthetic Proceeding, signifiait que, dans le cadre de l'audience unique tenue au RU, les créanciers français obtiendraient au moins ce à quoi ils avaient droit en vertu de la loi française. En effet, le tribunal en Angleterre utilise le droit français pour mieux protéger les travailleurs. Par ailleurs, le juge britannique Blackburn a autorisé les co-administrateurs de Nortel à utiliser leurs actifs pour faire des versements laissés à leur appréciation aux employés et créanciers prioritaires à hauteur de montants que ces derniers recevraient dans l'éventualité où une seconde procédure serait introduite dans un autre État membre de UE. Ce qui a permis un gain de rapidité et efficacité. Il était nécessaire d'apporter certains éclaircissements quant au champ des compétences des tribunaux dans le cadre des procédures ouvertes en Europe pour l'affaire Nortel. en particulier en ce qui concernait le tribunal français, qui était l'instance compétente dans l'éventualité de l'ouverture d'une seconde procédure d'insolvabilité. En juin 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le tribunal principal et le tribunal secondaire en France étaient compétents conjointement et ou simultanément pour déterminer quels étaient les actifs du débiteur relevant du champ d'application des effets de la procédure. Par conséquent, sur la question du différend dont il est saisi, le tribunal français aura la tâche de décider si les actifs concernés constituent des biens relevants d'un droit de propriété ou autre devant être inscrits dans un registre public ou s'ils doivent être considérés comme des créances. Le tribunal devra ensuite se charger de déterminer si les actifs concernés relevant de la seconde procédure d'insolvabilité ouverte en France. La saga de Nortel continue et nous enseignera certainement d'autres leçons quant aux possibilités et limites de l'élaboration d'un cadre pour gérer l'insolvabilité internationale des groupes d'entreprises commerciales. En conclusion, la résolution de l'insolvabilité internationale de groupes d'entreprises commerciales n'est qu'à ses débuts. Compte tenu de l'ampleur des obstacles, le premier pas serait peut-être de définir une série de principes pour orienter les futurs débats de l'Institut. Ces principes pourraient aborder les aspects suivants. Si l'on propose d'élaborer une solution pour un groupe d'entreprises concernant un certain nombre ou l'ensemble des entités de ce groupe, celle-ci devrait faire appel à la coopération et la coordination de ces entités, les affiliés du groupe, et il pourrait être utile que l'une d'entre elles assume le rôle de chef de file. Sur le plan procédural, la coordination entre entités doit contribuer à faciliter l'administration efficace de la procédure d'insolvabilité des affiliés du groupe et d'une manière générale avoir un effet positif pour les créanciers. Les affiliés de groupes d'entreprises pourraient dessiner l'une des procédures ouvertes pour l'insolvabilité comme procédure centrale pour coordonner les démarches. La participation au processus de coordination devrait être volontaire pour les entités dont le centre des intérêts principaux est situé dans un pays différent de celui où se déroule la procédure centrale de coordination. Chacune de ces entités devrait pouvoir choisir entre la restructuration et la liquidation. Les créanciers et parties prenantes de chaque affilié de groupe d'entreprise participant à l'élaboration d'une solution globale pourraient se prononcer dans leur propre pays sur le traitement qui leur serait réservé dans ce cadre, en vertu de la législation nationale en vigueur qui permettrait de préserver leur droit de vote sur le traitement particulier qui leur serait accordé. Merci.
Merci beaucoup de cette présentation de ces mécanismes si complexes de faillite internationale, donc qui viennent clôturer le cycle de conférences que nous avons eu l'honneur d'entendre. Donc, ce que je vous propose, c'est nous avons un quart d'heure, donc peut-être, Janice, si tu en es d'accord, il peut y avoir des questions sur cette conférence et puis sur d'autres points qui auraient été déjà évoqués ou des points plus généraux.
Oui.
Concernant les thèmes abordés pendant les conférences. Donc, je vais essayer de ne pas parler le premier, connaissant les dangers que ça ferait courir à la salle. Et donc, qui souhaite intervenir ? Oui, monsieur.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus...
Je vais reprendre là.
Oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de compétition entre les groupes d'intérêt nationaux, on peut dire, dans les différents pays, qui vont contrarier cette coordination qui est appelée de ces deux par Mme Sarah?
Est-ce qu'il n'y a pas des compétitions au niveau national entre des groupes d'intérêt différents qui viendraient empêcher le type de coordination que vous proposez?
Oui.
Jusqu'à quel point ce type de coordination peut surmonter les divergences d'intérêts qui... Voilà, c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas...
Est-ce que vous n'êtes... Oui, il y a quelque sorte de compétition, à mon avis. Il y a des problèmes avec des créanciers très sophistiqués qui veulent avoir la procédure aux États-Unis ou en Angleterre. Alors, il y a une course vers comment on peut ouvrir la première audience. Alors, l'effort de Unsitral est visé d'arrêter ces pratiques, ces concurrences, pour qu'on puisse avoir la procédure dans un pays le plus relevant ou le plus important. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème est qu'il y a une concurrence, un type de tension entre les pays, eux-mêmes, parce qu'ils veulent retenir la juridiction d'avoir l'audience. Et je peux donner un exemple. J'étais en Espagne récemment et j'ai donné une conférence au Cour suprême d'Espagne. Et c'est intéressant parce qu'ils veulent, non, on ne peut pas partager notre juridiction. Tout le monde ne comprend pas la loi de notre loi, et c'est important de garder ici pour l'entité. Le problème est que si les finances comme Nortel sont très intégrées, aussi le patronage, ownership,
c'est le propriétaire.
La propriété est dans la société mère. Il y a un grand désavantage pour les filiales. Il y a une autre pratique aussi que pour beaucoup de multinationales, les profits sont envoyés à la mère société très rapidement. Alors, quand il y aura une faillite, tous les créanciers dans les autres pays, dans les filiales, il n'y a pas des actifs pour qu'ils puissent être remboursés. Alors, ça, c'est une autre tension entre les choix. Et finalement, dans le niveau de les négociations à Unsitral, il y a certainement une tension entre les juridictions civiles et les juridictions communes. Et je pense que c'est parce que les juridictions civiles veulent qu'on puisse voir la structure de la loi et aussi d'avoir la certitude et peut-être l'efficacité de la codification. Et ils pensent pour la plupart de temps en temps que les tribunaux aux États-Unis, par exemple, sont plus que le Wild West, parce que c'est bon, moi je supporte beaucoup le droit commun, mais c'est moins
prédictible.
Prédictible.
La common law.
Oui, oui. Alors, il y a aussi... dans ces échanges, une tension pour qu'on peut décider comment de traiter les groupes d'entreprises dans la loi type. Et ça, c'est pourquoi il n'y a pas encore un consensus après 2 ans, mais ça continue.
Oui, madame.
d'un type de priorité.
Oui. Non, pas des priorités. En droit français, d'une façon générale, en droit européen, puisqu'il y a une directive qui a repris le dispositif français, plus ou moins, il y a un dispositif qui assure les salariés, en cas de défaut de paiement, sur une certaine quantité de salaire, une partie des indemnités auxquelles ils ont droit. Donc il y a un système de garantie de paiement, oui, qui est rendu obligatoire par une directive européenne, à l'échelle européenne. Donc la question qui se pose est de savoir est-ce qu'il y a des dispositifs de ce genre qui existeraient non plus à l'échelle française ou européenne, mais à l'échelle internationale. Est-ce que ça serait concevable?
Presque pas du tout.
Alors on pourrait peut-être concevoir qu'une obligation mondiale de paiement de participation par toutes les entités du groupe à ce fonds, en cas d'insolvabilité du groupe, ce fonds paierait les salariés et le fonds bénéficierait d'un privilège ou d'équivalent pour se faire rembourser sur les premiers produits de la liquidation.
Oui.
Oui, donc il s'agirait de... Est-ce que ça vous paraît réaliste comme... souhaitable d'abord,
ouais.
Réaliste ensuite.
À mon avis, j'aime beaucoup le système en France parce que c'est important de protéger les personnes les plus vulnérables dans ces questions. Et c'est, you know, les travailleurs ou les travailleuses perdent leur emploi. Les gens avec les disabilités perdent leur support social. Sauf qu'ils sont dans un pays où il y a des bons supports sociaux publics. Alors, et c'est vrai que beaucoup d'autres créanciers souffrent, bien sûr, mais ce n'est pas leur moyen de vivre, ça c'est le problème. Mais il y a une grande, grande différence entre tous les pays. Et dans un monde idéal, il y aura plus de priorités. Priorité pour les employés et des autres parties vulnérables, mais c'est une fonction qui n'est pas une volonté politique, merci, pour faire ça. Parce que pour la plupart, dans ces négociations, les partis les plus puissants, par exemple, une situation sont les États-Unis, l'Angleterre, et il n'y a pas la même protection dans leur pays des employés. Alors, il y a toujours une tension. Ça, c'est pourquoi, à mon avis, c'est difficile de trouver la vraie route pour traiter le groupe d'entreprise. Mais c'est intéressant pour moi, le cas de Nortel, il y a beaucoup de choses affreuses comme les filles professionnelles, mais c'est très important qu'ils ont traité les travailleurs de France dans la même manière que s'il y a un tribunal ici. Et ça, c'est un grand, très bon, très important précédent, à mon avis, pour tout le reste du monde. Oui.
Oui, on pourrait penser à deux voies juridiques, soit une convention internationale de type OIT qui pourrait donc être un support, mais ça supposerait qu'elle soit ratifiée. Alors, on sait que la tendance à la ratification n'est pas très grande, spécialement aux États-Unis, qui est avec le Bahreïn le pays qui a ratifié le moins de conventions internationales du travail. On pourrait imaginer peut-être aussi des dispositifs passant par les règles de la comptabilité et des normes comptables internationales, puisque au travers des comptes consolidés, on a un moyen quand même d'appréhender l'unité financière d'une entreprise qui est fragmentée en personnes juridiques différentes.
Oui.
Donc, est-ce qu'au travers des normes comptables et du fait que le respect de ces normes est une condition d'accès au marché financier, est-ce qu'il n'y aurait pas un outil juridique est-ce qu'il n'y aurait pas un outil juridique de mise en œuvre de ce type de dimension par la possibilité d'accéder au marché financier, par exemple.
Oui. C'est un défi, je pense.
On retombe sur le problème de la volonté politique, de toute façon, dans tous les cas de figure, quel que soit.
Mais,
les instruments juridiques ne manquent pas, mais où on peut en imaginer. Mais...
C'est aussi le problème que si, par exemple, il y a une audience, le tribunal Par exemple, en Angleterre, avec Nortel, c'est pour les 19 pays, mais c'est tout en Angleterre. Pour le fournisseur ou l'employé ou un autre créancier, il ne peut pas aller en Angleterre pour suivre l'audience ou participer. C'est seulement pour les grands créanciers. Ça c'est un autre problème. Mais il y a aussi, par exemple, dans Nortel, il y avait... le cours canadien a commissionné un représentant des retraités. Alors, les actifs ont payé pour un représentatif, un avocat pour les retraités à cause du problème de collective action problems et le problème de difficulté de comprendre les litiges. Mais ce n'est pas suffit, à mon avis. On a besoin d'autres mesures, je pense.
Une autre question qui a été très débattue en France, c'est la pratique qui consiste, que vous avez évoquée, Janice, pour un groupe, à organiser la faillite d'une de ses filiales. C'est-à-dire, donc, on rapatrie, on la met artificiellement en difficulté pour pouvoir ensuite couler le navire avec son équipage sans avoir à payer les coûts sociaux. Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles on a pu, dans le cadre du groupe, imputer la responsabilité de l'entreprise parce que c'est elle qui avait pris la décision. Mais c'est dans des conditions que le droit du travail accueille assez facilement, mais les commercialistes n'aiment pas ça du tout. Ils sont très attachés, en droit commercial, à l'autonomie de la personnalité morale. Alors, ce que je vous propose, comme il nous reste très peu de temps, je prends toutes les questions qui restent, et puis on pourra y répondre ensemble. Madame. Non, vous avez raison, certainement. Mais la chose positive au sujet de Nortel est qu'on a gagné, on a assemblé 7,5 milliards de dollars par la coopération et la coordination. Mais après ça, ça a tombé parce qu'il n'y a pas le règlement ou les incentives. Incitation, oui.
Oui, de se régler, de partager les actifs. Mais on espère peut-être qu'on peut apprendre de cette situation et changer comment on peut faire ça. Par exemple, la prochaine fois, je pense que les tribunaux ne doivent pas approuver la première partie du process sans d'avoir un moyen de partager les actifs après.
Alors, il y avait une question, non ? J'avais cru voir une main se lever ici. Non ? Eh bien, alors... Ah, alors, la dernière question, je vous en prie, monsieur.
Les avocats sont excessivement importants dans cette affaire. Est-ce que vous estimez que c'est le premier dossier qui se présente ou c'est le pourcentage habituel qui est appliqué dans les cas de faillite ?
À mon avis... C'est en particulier, c'est le problème que aux États-Unis, les groupes de créanciers non sécurés,
c'est le right word? Non, oui, n'ayant pas de sans sur les créanciers chirographaires, les créanciers ordinaires, oui.
Oui, créanciers ont le droit d'avoir leur professionnel, leur avocat payé par les actifs. Alors, il y a un groupe de créanciers d'obligation très fort dans ces procédures qui n'a aucun incitement de se régler la situation parce que tous les litiges, tous les taux de professionnels, de leurs avocats, de leurs personnes comptoirs, etc., ont payé pour les actifs. Alors, il n'y a aucune pression de se régler. Ça, c'est le grand problème. Et dans ce milliard de dollars d'argent professionnel, la plupart est jusqu'à ces avocats des États-Unis.
Oui, parce que là, on retrouve des questions, si vous voulez, de différences de culture juridique qui ont une incidence aussi sur les problèmes de qualification statistique qu'on a évoqués ce matin dans le cours. J'avais fait vraiment une comparaison entre Japon et États-Unis qui sont bien connus pour être deux espèces de pôles où au Japon il y a très peu d'avocats. Enfin, c'est une société qui ça se développe un peu, mais enfin, le nombre d'avocats par habitant comparé aux États-Unis est infime. En revanche, il y a une fonction publique beaucoup plus importante au Japon. Donc, si on approche cette comparaison d'un point de vue fonctionnel, on dira que la transaction est assurée sur des modes différents. Au Japon, où elle est sur un mode centralisé et administré, alors qu'elle l'est par le biais de l'intermédiation de lawyers privés aux États-Unis. Donc, si à ce moment-là, si on cesse de raisonner simplement en termes, si vous voulez, de dépenses publiques, pour voir en espèce de coût social global de l'intermédiation. Mais en général, on ne fait pas comme ça, même endroit comparé. En tout cas, je voulais remercier encore le professeur Sarah pour cette remarquable série d'exposés. Vous remercier pour votre fidélité. J'ai invité cette année, enfin, ce n'est pas encore, il faut que l'Assemblée des professeurs qui se réunit dimanche prochain doit confirmer ma proposition, mais j'ai des raisons de penser qu'elle le fera. Donc le professeur Marc Friedland, qui devrait venir faire une conférence au mois de mars. La date exacte m'échappe. Marc Friedland est professeur à Oxford. C'était un des grands artisans des liens, d'ailleurs, entre les universités Paris 1, Paris 2 et Oxford. Et il viendra faire une seule conférence, mais pas quatre, il va moins travailler, qui tournera autour de la question du « zero hours contract », donc des nouvelles formes contractuelles, les contrats zéro heure, en droit britannique. Donc la date sera indiquée, mais j'ai bien compris que le site du Collège de France était considéré comme une sorte de labyrinthe où il était dangereux de s'engager, mais enfin, si vous allez sur la page correspondant à ma chaire, il y aura l'information à ce moment-là. Donc merci beaucoup, merci à tous, bonne soirée, bonne fin de séjour à Paris. Ce séjour, Janice, a été marqué vraiment par des épreuves épouvantable. J'espère que vous en garderez cependant au moins du Collège de France le meilleur souvenir possible.
Merci. Merci à vous.